Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h46, les grands débats ce matin. Thierry Guerrier, Philippe Bilger étaient avec nous. Vos appels 0826-300-300. On va revenir sur nos questions sur les présidentielles 2022. Avec la petite phrase de Valérie Pécresse, a-t-elle raison de ressortir le Karcher de la cave? Pour l'instant, vous dites non à 78%, avec pas mal de messages. Comme Magdalena qui nous dit, cette campagne électorale va être, comme dans tous les pays en ce moment, d'une grande médiocrité pour diviser le peuple et le mépriser. Et Jackie nous dit, cette campagne risque l'indignité par la violence de ses mots, tout cela pour avoir le poste suprême où l'insulte, où insulter certains citoyens est devenu un slogan pour imposer des lois liberticides.
Oui, bah en tout cas, c'est vrai que la semaine a été animée par les petites phrases, quoi. Et donc, il y a eu celle précédemment d'Emmanuel Macron. Alors, Philippe Bilger, justement, vous revenez
bonjour
sur...
Philippe.
Bonjour Philippe.
Bonjour Cécile, bonjour Patrick.
Et vous revenez sur, sur cette petite phrase.
Hein, bonjour Thierry, bonne année.
D'Emmanuel Macron et au-delà, en prenant un tout petit peu de hauteur, parce que malgré tout, Emmanuel Macron reste quand même assez largement en tête dans les sondages, alors que du côté de la gauche, vous allez nous en dire un mot dans un instant, bah ça ne décolle pas et puis ça n'avance pas et c'est même alors on va voir ce que ça va donner avec Christiane Taubira, mais pour l'instant ça reste une zone assez plate quoi.
En effet, Patrick, si on attache de l'importance au dernier sondage, il semble que Emmanuel Macron fasse largement la course en tête de l'ordre de 26-27. Marine Le Pen serait à égalité avec Valérie Pécresse à 16-17. Et nous aurions derrière Éric Zemmour à 13-14. Alors, bien sûr, je sais que l'élection présidentielle est dans un peu plus de 3 mois. Je sais qu'Emmanuel Macron bénéficie actuellement de ce statut un peu protecteur d'être encore le président avec cette protection que les Français attendent de lui, sans être à peu de choses près officiellement candidat. Je sais qu'il y a encore des débats à venir, mais on peut tout de même tirer une conclusion de ce sondage, même éloigné de l'échéance. Ça montre qu'il y a des gouffres, non pas des gouffres, mais que des distances se sont créées et que, bien sûr, des surprises sont possibles. Mais je souhaite bon courage aux poursuivants d'Emmanuel Macron.
Oui, alors les poursuivants qui sont au nombre de plusieurs, évidemment, voilà. Il y a ce problème aussi des parrainages, ça on l'a vu tout à l'heure avec Elisabeth Lévy. Et puis, il y a cet autre sujet qui concerne alors aussi la gauche. On a entendu le reportage de Christine Bouillot tout à l'heure, de Christiane Taubira qui était sur des terres de gauche dans l'Ariège hier pour elle a planté un arbre. Hein. Donc, est-ce que c'est un signe ou pas la gauche qui n'y arrive pas là pour l'instant, en tout cas dans les intentions de vote, mon cher Philippe Bidger. Hein.
Absolument. Il est très étrange. Alors, Christiane Taubira, pour laquelle, en tant qu'ancienne garde des Sceaux, je n'ai pas une dilection particulière.
Et vous, ancien magistrat.
A planté un arbre, et puis elle est très douée pour citer des poètes.
Oui.
Mais en l'occurrence, il est très étrange, vous l'avez dit, Patrick, de voir à quel point la gauche, et j'y inclus l'extrême gauche, est presque désespérément dans une attitude suicidaire. Nous avons eu des candidats qui sont déclarés officiellement depuis longtemps, aussi bien le Parti communiste que Jean-Luc Mélenchon, qui ne veut céder sa place à personne, et bien sûr Yannick Jadot, qui a déjà eu du mal à se débarrasser de Sandrine Rousseau dans la primaire. Et il serait assez paradoxal que les autres qui réclament une primaire veuillent noyer leur échec personnel dans une vaste entreprise collective. Donc je me demande ce qui gît au fond de l'esprit de gauche. Est-ce qu'ils ne sont pas tellement persuadés de l'échec en 2022 qu'au fond, ils précipitent presque le mouvement en refusant toute opportunité sauvegarde. Je ne vois pas laquelle d'ailleurs, mais au fond, il y a quelque chose d'assez effrayant pour ceux qui croient en la gauche.
Effrayant, j'allais dire que j'ai craint à un moment donné que vous alliez utiliser le terme d'une gauche masochiste, hein, Philippe Bidger.
Ah, mais, non, vous n'étiez pas loin. Mais d'une... Mais d'une certaine manière, oui, Patrick, parce qu'au fond, lorsqu'on accomplit tant de choses qui sont contre la pureté de sa cause, c'est qu'on a un problème psychologique.
Bon, Thierry Guerrier, sur ce que dit à l'instant Philippe Bidjard, et puis vous, au 0826 300 300, est-ce que vous avez le sentiment que la gauche est un peu masochiste, en fait, aujourd'hui ?
Mais, si vous voulez, je crois que Philippe est très pertinent et qu'il y a un certain nombre de gens qui préfèrent plomber aujourd'hui dans leur petite cuisine personnelle et pour essayer de masquer en effet leur défaite.
Parce qu'ils pensent à la suite, c'est ça ?
C'est ça, ils pensent à tenter de se refaire avec une victoire, peu importe, Macron ou Valérie Pécresse ou quelqu'un d'autre, mais ils essayent d'envisager la suite, ouais. C'est-à-dire de reconstituer. C'est évidemment ceux qui soutiennent Christiane Taubira, Anne Hidalgo. Les vrais candidats aujourd'hui à gauche qui ont du poids, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui. Mais Jean-Luc Mélenchon et Yves Jadot. Il y a deux dynamiques. Il y a une véritable dynamique à laquelle il faut vraiment prêter attention. C'est la dynamique de Jean-Luc Mélenchon, qui est donnée par exemple à 13 à nouveau.
Dynamique.
Non, mais
oui.
Souvenez-vous,
oui.
Personne l'attendait en 2017 à 19%.
Ah, oui.
Et imaginez qu'aujourd'hui, un Jean-Luc Mélenchon finisse à 17, par exemple, au premier tour, avec tout le monde, tous ses adversaires de droite à 16, on pourrait assister à un étrange second tour, alors que la France est à plus d'un tiers, près de 40% à droite, et même un petit peu plus. Donc ça, c'est, je crois qu'il y a une dynamique Mélenchon avec une certaine dynamique par ailleurs des idées écolo.
Philippe Bilger, voyez que finalement, à gauche, on peut encore espérer avoir de l'espoir à travers Mélenchon. Et ce que dit Thierry est tout à fait juste. Hein, quoi.
Jamais. Mais je le crois.
C'est vrai que ça patinait à moins de 10% pour Mélenchon. Il y a quelques enquêtes qui
montrent qu'il pointe
son nez un peu au-dessus.
La réalité, la vraie question aujourd'hui pour l'ensemble de la scène politique, c'est de savoir si Valérie Pécresse sera ou non au second tour.
C'est ça
le sujet. Alors, si Valérie Pécresse est au second tour, tout est possible.
Tiens, Philippe Bilger, sa déclaration d'hier ou d'avant-hier, où il va falloir ressortir le Karcher, une déclaration alors qu'elle visitait Cavaillon et des quartiers extrêmement sensibles. Sur la sécurité. Que pensez-vous de cette déclaration ? Est-ce que peut ternir son image, au contraire la repositionner ?
Je ne trouve pas scandaleux en soi le propos d'une candidate qui cherche à ressortir de la cave le Karcher, qui, de mon point de vue, n'a pas été beaucoup utilisé depuis 2007. Mais n'empêche qu'il y a peut-être un problème de forme chez Valérie Pécresse. Vous savez, Patrick, à quel point l'oralité me préoccupe.
Bien sûr.
Je suis frappé parfois par la vigueur du fond, voire parfois l'étrange brutalité de ce qu'elle propose et la douceur de son ton. Il y a comme un léger hiatus qui peut un peu troubler le citoyen. Mais pour le reste, à partir du moment où elle propose de ressortir le Karcher de la cave, et si on ne sait jamais, elle était qualifiée pour le second tour, elle ne pourrait pas se permettre de trahir un engagement qui est pris d'une certaine manière pour la deuxième fois.
Oui, bon, le Karcher qui fait sonner le téléphone, le standard de Sud Radio, 0826 300 300, c'est Gérald de Montpellier qui est avec nous. Bonjour Gérald.
Oui, bonjour à tous.
Bon, sur Valérie Pécresse, ce qu'on vient de dire en fait à l'instant, vous en pensez quoi, vous ?
Non, je suis plutôt d'accord avec Philippe Bilger de ce côté-là. Le problème qu'il y a, c'est que malheureusement, elle n'a pas une âme de présidente. Pour quelle raison ? Parce que elle manque de sincérité en fait dans son discours. Elle est obligée d'utiliser en fait des mots qui buzzent comme le mot Karcher en 2007 pour essayer d'éliminer un petit peu ce qui peut se passer dans le quartier et repartir sur du neuf. Mais de quels moyens elle va le faire ? Il y a 15 ans, son gouvernement avait déjà éliminé pas mal de fonctionnaires de police, de proximité notamment, et c'est à cause de ça aussi ce qui est devenu un petit peu aussi les cités d'aujourd'hui et les quartiers d'aujourd'hui. Et après, par quels moyens va le faire ? On a versé des milliards et des milliards en fait dans ces quartiers-là, et aujourd'hui c'est pire que tout. Donc elle va faire quoi et avec quel argent ? Elle a l'intention aussi, encore une fois, de réduire pas mal de fonctionnaires en France lors de son prochain... soit peut-être pour elle, son prochain quinquennat. Non, le seul problème qu'elle a, c'est qu'aujourd'hui, elle est sur une ligne droite comme celle de Macron. Elle est plutôt centriste. Si Macron n'est plus là, demain, elle prendra la suite. Et c'est ça l'objectif. C'est une maastrichtienne avant tout. Elle est pour l'Europe et après les Français. Quand elle dit « oui, je vais arrêter la naïveté de l'Europe », mais non, parce que tu vas la suivre, elle n'aura pas d'autre moyen que ça. Et après, elle veut aussi modifier l'accord de Schengen. Tout le monde dit ça. Ouais. À chaque semaine, tout homme politique veut modifier l'accord
même
de Schengen.
Même Macron l'a évoqué, hein, bien sûr.
Ouais, mais, oui, d'accord, mais ça, on verra après de quelle manière il va l'évoquer.
Simplement, il l'a évoqué, là, hein, oui.
Enfin voilà, donc du coup moi ce qui me dérange c'est sa sincérité et puis son âme quand on la voit à la télé.
Je comprends totalement votre raisonnement, on va continuer d'en parler avec vous au 0826 300 300, qu'est-ce que vous en pensez justement de ce Karcher, 0826 300 300, vous pouvez appeler Philippe Bilger, Thierry Guerrier reste avec nous, petite surprise aussi dans 5 minutes, Philippe Bilger avec nous, une certaine Babette de Rosière qui va être avec nous. Elle veut pousser en fait un coup de gueule parce que elle voudrait aller en Guadeloupe. Vous savez qu'il y a une situation quand même qui est compliquée avec un état d'urgence là-bas. On l'empêche d'y aller. Pourquoi ? Elle va nous dire ça dans un instant. Et puis ensuite, on parlera aussi de la situation extrêmement tendue en Ukraine, au Kazakhstan, avec une reporter qui revient de la région, grande reporter, hein, Sarah Daniel, qui sera avec nous aux environs de 9h15.
Et en attendant des jeux, hein, parce qu'on fait gagner des cadeaux avec le Béarn Pyrénées Tourisme et le gîte de France 64, hein, un week-end nordique raquette à Irati. Un week-end nordique raquette. De nuit en chalet Irati, 4 forfaits journée, location de matériel de ski pour 2 personnes et pour 2 jours. On est ravis de vous offrir ce joli cadeau, 0826 300 300. Et allez, c'est moi qui le dis ce matin, le 15e appel au standard.
15e appel. Et il y aura du fromage en plus, c'est sûr, c'est promis.
La raquette et de la tartiflette. Allez, à
Irati. Suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h04 dans quelques instants, la Guadeloupe à nouveau sous le régime de l'état d'urgence avec la flambée Omicron et Babette de Rosière sera avec nous pour en parler. En attendant, la suite des grands débats avec Philippe Bilger, avec Thierry Guerrier, vos appels 0800 26 300 300.
Oui, alors sur le Karcher en fait d'un mot, parce qu'on parlait de Valérie Pécresse, vous avez le sentiment, Thierry Guerrier, que c'est une posture de Valérie Pécresse, comme disait Gérald qui était avec nous là de Montpellier tout à l'heure, et qu'elle n'est pas sincère ?
Non, c'est pas... Il y a en politique le fond et la tactique et la stratégie. Et là, Valérie Pécresse avait un besoin, j'allais dire urgent, déclenché par le fracas provoqué par Emmanuel Macron à travers l'usage du verbe emmerder dans la bouche du président de la République, ce qui est quand même sans précédent. Il y avait le besoin de ne pas se laisser piéger et ravaler au rang de tous les autres candidats et devenir inexistante. Il fallait donc faire un coup. Elle est en déplacement sur la sécurité, sujet de prédilection des LR et de la droite, et sujet qui était dans l'actualité. Et donc, elle va puiser dans la rhétorique, dans l'héritage sarkozyste, cette vieille formule, certes éculée, mais qui a tout de même marqué les problématiques de sécurité, qui marque tous les esprits et tous ceux qui s'intéressent à ces sujets d'une manière ou d'une autre, avec la connotation, y compris péjorative, du nettoyage, du verbe nettoyer pour les quartiers concernés. C'est pas très agréable pour ceux qui y vivent, pardonnez-moi, même s'ils ne sont pas des dealers. Et donc, tant pis, au moins là, elle jette sur la table ce propos. C'est à la fois parce que sur les sujets de sécurité, elle a des choses à dire, pense-t-elle, et son camp, mais aussi parce qu'elle sait que ça va faire débat et que ça va se permettre de sortir du piège tendu par le président de la République. C'est de la tactique et c'est le jeu de la campagne électorale.
C'est probablement aussi un clin d'œil à Nicolas Sarkozy parce qu'elle a
bénéficié dans son camp, bien sûr,
qui sont pour Nicolas Sarkozy qu'il faut rentrer en fait au bercail, hein, c'est ce qu'on dit un petit peu sur les réseaux sociaux, à la question qu'on pose.
À la question que l'on pose.
Et un peu cynique.
Bien entendu, Valérie Pécresse a-t-elle raison de ressortir le Karcher de la cave ? Vous dites non à 78%, et beaucoup de gens effectivement ressortent la phrase de Nicolas Sarkozy en disant qu'il l'a plutôt sorti envers des forces de l'ordre, plutôt qu'en faire envers les quartiers. Voilà, c'est ce qui se dit.
C'est ce qui se dit. Karcher, Jean-Baptiste Lemoine, notre invité, le ministre, disait enfin c'est plutôt des pistolets à eau. Parce que quand on voit ce qui a été fait, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de nettoyage. Ce qu'il disait, Philippe Bilger, sur Jean-Baptiste Lemoine. Lemoine. Justement, vous vouliez réagir sur l'interview hein, tout
moi,
à l'heure.
J'ai trouvé la fin de l'entretien qu'il a donné, Patrick. Le pistolet à eau, ça me paraît tout de même très méprisant. Et ça montre que la Macronie n'a pas une image modeste d'elle-même. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ah,
mais vous avez posé une question très pertinente sur les signatures.
Je vous remercie.
Et non, mais vraiment, Patrick, sur les signatures.
Oui.
Et j'ai été frappé de voir avec quelle désinvolture il a répondu à côté. Parce que on peut être attaché à une cause et tout à fait défendre Emmanuel Macron, mais considérer que le problème des signatures est un véritable enjeu démocratique. Il n'y a pas seulement à droite ou à l'extrême droite que le problème se pose, mais je crois savoir qu'aussi à gauche, certains ont du mal à obtenir leur signature.
Oui.
Alors, je sais bien qu'on souhaite qu'il y ait le moins de candidats possible pour concourir au premier tour, mais je crois que le problème des signatures dépasse largement le champ partisan.
Oui, c'est vrai. Allez, Babette de Rosière est avec nous, chef cuisinière, la case de Babette à Maule dans les Yvelines, et puis de nombreuses activités. Et le salon de l'Outre-mer également autour de la gastronomie. Bonjour Babette.
Oui, bonjour. J'ai entendu justement la réaction de Philippe. Il a parfaitement raison.
Ouais.
Parce que je ne comprends pas comment on peut dire que Valérie raconte des histoires, d'autant qu'elle rappelle le volontarisme de Nicolas Sarkozy. Et c'est un moyen de dire clairement qu'il n'y aura pas de zone de non-droit, il n'y aura pas de quartier abandonné, il n'y aura pas de république, de problème sur la république. Partout, il y aura l'ordre qui va régner. Je pense que c'est normal et c'est légitime qu'elle défende la sécurité des Français.
Ouais.
Cela dit, évidemment, le salon de la gastronomie, c'est le 27, le 28, 29 et 30 janvier à la porte de Versailles.
Bon, est-ce qu'il aura lieu ? Oui, il va être maintenu ou pas ?
Il aura lieu en présentiel. Je suis très, très, très contente.
Ouais.
Parce que l'année dernière, on a fait le salon en virtuel.
Ouais.
Et là, on le fait en présentiel, on est content.
Dites-moi, Babette de Rosière, vous deviez aller en Guadeloupe pour des conférences, en fait, c'est ça
Oui, non, c'est que le ministre de l'Outre-mer, M. Sébastien Lecornu, m'a confié une mission en janvier, qui s'est concrétisée après des tractations au mois de mars, début mars, parce qu'on refusait au départ de me payer, ce que j'ai dit quand même. On me dit que c'est honorifique. Alors j'ai demandé, est-ce que tout le monde est payé d'une façon honorifique au ministère de l'Outre-mer ?
Ouais.
Donc il a fallu que j'attende le mois de mai pour qu'on puisse me payer. Donc
ouais.
Ça s'était réglé.
Ouais.
Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, ça y est, je me mets en plein pot dans ma mission. Jusqu'ici, tout va bien.
Et votre mission, c'est quoi ?
Ma mission, c'est de m'occuper, justement, de valoriser les cuisines des Outre-mer. C'est une très belle mission, c'est une belle idée de m'avoir confié ça.
Ouais, ouais.
Donc, je suis parti partout dans les Outre-mer. J'en ai fait 6 territoires jusqu'ici pour, justement, faire l'inventaire de ce qui m'a été demandé.
Babette, aller en ce moment en Guadeloupe, c'est un peu compliqué compte tenu de l'état d'urgence.
Non,
peut-être qu'il a raison, le préfet, non ?
Non, pas du tout, pas du tout. Je suis allé en Polynésie. Partout en Outre-mer, il y a le Covid. Qui s'intéresse au Covid ? Qui parle du Covid en Outre-mer ?
Ouais.
Ce sont des départements oubliés. Est-ce qu'on parle journellement, vous entendez parler du Covid, de la situation du Covid en Outre-mer ? Personne n'en parle. Moi, je suis allé.
Ouais.
J'en ai parlé. J'ai vu des gens. J'ai vu les anti-vax. Je leur ai demandé d'aller se faire soigner, d'aller se faire vacciner. Ça, j'étais heureusement que je suis allé là-bas, puisque j'ai pu comprendre ce qui se passait au niveau du Covid.
Ouais.
Mais en dehors de ça, j'ai mené à bien, justement, mes conférences, mes réunions, pour justement remplir ma mission.
Alors
se trouve que moi, je devais partir en Guadeloupe le 8, donc demain.
Ouais.
Monsieur Gustin, qui est l'ancien préfet de la Guadeloupe, qui a encore des comptes à régler à la Guadeloupe, ça a été le plus nul des préfets qu'on a eu en Guadeloupe.
Calmez-vous.
Lui, ce monsieur-là, qui est actuellement le directeur de cabinet du ministre, c'est lui le Django du village, c'est lui le dictateur qui se permet de me dire
vous n'irez pas en Guadeloupe. Attendez, vous l'insultez, je n'insulte personne.
Ouais. Il m'a dit que je n'irai pas en Guadeloupe. Alors j'ai demandé pourquoi je n'irai pas en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'il me répond ? Oui, il y aura des interférences dans les négociations en cours avec les syndicats. Le ministre a essayé de calmer parce que vous êtes élu, on risque de vous manipuler. Alors moi, Elisabeth Babette, on va me manipuler. Je vais dans mon pays natal, on va me manipuler. Enfin, tout ça des raisons qui sont complètement fallacieuses, qui n'ont rien à voir avec l'objet de la mission.
Alors c'est quoi ? Quelles
sont
les raisons ?
Et j'ai compris les raisons, les vraies raisons, parce qu'il a envoyé des mails, il a envoyé des WhatsApp à mes amis, en disant que moi, je suis politique et que je défends les causes de Valérie Pécresse en tant qu'oratrice. Voilà les causes. Voilà la vraie cause. Ah. Alors je trouve ça inadmissible qu'on m'empêche d'aller dans mon île natale sous prétexte pour des raisons politiques. C'est vraiment dommage et c'est regrettable parce qu'au-delà des engagements politiques de chacun, je pense que l'intérêt général doit toujours l'emporter. Voilà mon point de vue.
Bon, bah voilà, ça méritait d'être dit. En tout cas, et ça, c'est ça.
Et
c'est
bonne
dit.
Année.
Bon, voilà. Merci.
Même si j'apprécie le ministre qui m'a donné cette mission à faire, mais son directeur de cabinet, il a un compte à régler. Maintenant, il emmène des Guadeloupéens. Et je le ferai savoir à tous les Guadeloupéens. De toute façon.
Dites donc, vous n'allez pas aller passer des vacances en Guadeloupe, en tout cas ensemble, quoi.
Ça, c'est, moi j'y vais en Guadeloupe personnellement pour régler ce problème.
Bon, mais donc demain, vous n'y allez pas alors ?
Non, je ne peux pas y aller, parce que demain, j'ai prévu autre chose. Mais j'irai en Guadeloupe, j'ai programmé, parce que tout était prévu, la préfecture de Guadeloupe avait préparé mon programme, tous les corps constitués, les élus, les présidents consulaires, tout le monde avait préparé mon programme. Ouais. Je suis attendu lundi 10 janvier pour une réunion avec tout le monde, ce que le ministre n'a pas pu faire, parce que quand il est arrivé en Guadeloupe, tout le monde a déserté, il n'est même pas resté 3 minutes avec les personnes, on n'a pas voulu l'entendre. Moi, on me recevait. On m'entendait. Tout le monde avait déjà prévu le 10 janvier à 10h. Je suis convoqué justement pour cette réunion avec les élus, les présidents de consulaires, avec toute la filière agroalimentaire. Bon. Et il m'a dit de ne pas y aller. Voilà.
Bon. Quand Babette cause, on l'écoute, hein, ça c'est clair. Bon, merci Babette de Rosière d'avoir été avec nous ce matin. Allez, encore un mot dans les grands débats du matin, avant de s'intéresser, merci à vous d'avoir été avec nous, avant de s'intéresser dans un instant à la situation quand même au Kazakhstan. Vous avez vu, ils ont coupé en fait Internet. Il y a eu des dizaines de morts, et on dit que derrière, en fait, Moscou pourrait intervenir. Moscou, évidemment aussi, qui a des vues sur l'Ukraine, parce qu'il va y avoir une rencontre particulièrement importante la semaine prochaine entre Poutine et Joe Biden. On va en parler avec Sarah Daniel. Un mot pour revenir aussi quand même sur l'actualité en fait de ce matin, c'est cette semaine de pagaille un peu aussi à l'école, forcément avec le Covid. Alors, Félix Mathieu, dans le Factuel ce matin, le gouvernement a un peu décidé d'assouplir ce protocole sanitaire, parce qu'on rappelle qu'il y a eu près de 10 000 classes fermées quand même cette semaine.
Hein. Oui, un protocole qui avait été mis en place dimanche soir. Alors, pour pouvoir retourner à l'école, s'il y a un cas positif dans la classe, il faut un test PCR ou antigénique négatif, puis un deuxième test au bout de 2 jours, et puis un troisième test 4 jours après. Mais alors, là où le gouvernement a un peu fait marche arrière, il vient de revenir sur un point qui était trop compliqué à appliquer, c'est qu'avec le protocole de dimanche soir, il fallait recommencer entièrement ce cycle de 3 tests si un nouveau cas était détecté au sein de la classe.
Ah oui.
Alors, désormais, c'est plus le cas. Désormais, les tests déjà réalisés resteront valables si le nouveau cas est détecté moins d'une semaine après le premier. Voilà ce qu'il y a donc.
Oh là là, on a du mal à suivre. Philippe Bilger commence à se poser des questions là. Oui.
Ah mais absolument. C'est une bureaucratie sanitaire, c'est hallucinant.
C'est complexe, oui.
Alors c'est une règle qui est valable, ça, donc pour les élèves des écoles primaires, mais aussi pour les plus de 12 ans s'ils sont vaccinés. Parce que pour les plus de 12 ans non vaccinés, eux, ils doivent rester isolés pendant 7 jours s'ils sont cas contact dans leur classe, cas contact de leur classe ou de leur famille. Hein. Et puis ils peuvent se faire tester pour revenir donc en classe au bout d'une semaine. Alors forcément, comme tout cela engendre beaucoup de paperasse pour les administrations scolaires qui sont déjà débordées, eh bien, le principe d'une attestation sur l'honneur a donc été retenu pour garantir les résultats négatifs des autotests à J+2 et J+4.
Le personnel scolaire est complètement débordé par la situation, il n'en peut plus. Là. Ils étaient à bout de nerfs. On avait une directrice d'école tout à l'heure. Elle disait c'est pas possible, quoi, effectivement, aujourd'hui, à gérer. On aurait dû, ce qu'elle disait, peut-être essayer de reculer, de mieux s'organiser avant. En même temps, il n'y a pas de solution magique, je pense, en fait, dans cette histoire. Merci, en tout cas, pour les grands débats. Ça continue. Ça se poursuit évidemment dans un instant avec cette situation quand même explosive au Kazakhstan. Et vous savez quoi ? Derrière en plus, c'est la crypto-monnaie qui est à l'origine en fait de ça. de ce conflit, en partie.
Spéculation sur
non, pas du tout, premières. Pas du tout, parce que beaucoup, c'est une crise autour de l'énergie, on en parlera, autour de l'énergie. Pourquoi aussi? Parce que beaucoup de gens qui travaillent sur la crypto-monnaie sont partis s'installer, comme vous savez qu'il y a énormément d'informaticiens qui sont très très bons, en fait, des Russes et dans toute cette région, ils sont partis s'installer au Kazakhstan parce qu'il fait froid. Et parce que, en fait, vous savez, l'ensemble des machines qui fonctionnent pour la crypto-monnaie utilisent beaucoup d'énergie et il faut les refroidir, en fait, l'ensemble de ces monstres, de ces machines, et ils étaient allés s'installer au Kazakhstan. Et derrière, c'est en toile de fond de cette crise. C'est complètement, en fait, incroyable. On va en parler dans un instant, mais plus sur l'angle aussi, hein, géopolitique avec Sarah Daniel, grand reporter.
À tout de suite. Il est 9h17, c'est le Grand Matin Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h20, dans un instant, on reviendra sur la situation en Ukraine et au Kazakhstan avec Sarah Daniel, un journaliste et grand reporter de guerre. En attendant, on va juste offrir un petit cadeau, on va vous offrir du bonheur ce matin, du bonheur en bar de ski. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parce qu'on va vous offrir un week-end de ski nordique. Raquette à Irati, donc deux nuits en chalet à Irati, quatre forfaits journée, location de matériel de ski pour deux personnes et pendant deux jours. C'est offert par le Béarn, Pyrénées Tourisme et Gîte de France 64. Et la bonne nouvelle, c'est que ce cadeau a un prénom, puisqu'il s'appelle Cyril. Bonjour Cyril.
Bonjour Cyril.
Oui. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, et merci Cécile d'avoir choisi le bon numéro.
Bah exactement, parce que j'avais pensé au 16, mais je me suis dit Cyril de Gironde, c'est le 15, donc il faut absolument que je dise le 15.
C'est assez hallucinant, je vous entends et je vous écoute tous les matins avec plaisir, j'ai essayé plein de fois d'appeler, et jamais j'ai réussi à vous avoir, et aujourd'hui je suis hyper heureux d'avoir gagné. Quoi,
ah bah voilà. Oui, bah nous aussi on est hyper heureux parce qu'on vous attendait au téléphone depuis 4 ans, et donc on est content que vous soyez arrivé. Et vous allez partir avec qui Cyril?
Je vais partir avec ma compagne et mes enfants.
Ah, vous avez une compagne. C'est ballot.
Vous avez vu l'invitation en direct.
Carrément.
Vous faites quoi? Bien, je plaisante, bien entendu.
Comment elle s'appelle, votre épouse?
Karen,
qu'on embrasse très fort.
J'espère qu'elle n'écoute pas, parce que là, sinon...
Mais Karen, elle sait très bien que c'est pour rire. Vous faites quoi dans la vie, Cyril?
Je suis responsable informatique et en télétravail aujourd'hui.
Ah, bah très bien, très très bien. Et vous nous écoutez donc depuis longtemps?
Ça fait des années. Des années.
On adore ça. Bah, en tout cas, merci pour votre fidélité. On vous souhaite une belle année. Et vous nous enverrez des cartes postales avec Karen, j'espère.
Mais ce sera fait. Vous inquiétez pas. Et merci encore une fois à vous pour tout ce que vous faites, parce que vous êtes une vraie radio.
Bon, c'est vrai.
Qu'est-ce que vous aimez sur Sud Radio, chez nous, entre guillemets, enfin l'ensemble?
Moi, je vous écoute beaucoup le matin. J'aime beaucoup vous écouter. J'adore les débats. La politique, bien sûr, et puis tout ce qui se passe en ce moment, le Covid. Donc forcément, voilà. Je vous écoute parce que vous parlez vrai, et puis vous êtes sincère. Voilà, c'est comme ça. On ne se fait pas.
On aime. Bah, merci beaucoup, Cyril. On vous embrasse. Embrassez Karen, vos enfants, et puis à très bientôt. Et envoyez-nous des cartes postales.
C'est raquette, hein.
Bien sûr, c'est raquette.
Vous avez vu, avec la crise du Covid l'année dernière, ça s'est beaucoup développé. Moi, j'ai jamais fait la raquette. Vous en avez déjà fait, Cyril, ou pas?
Mais moi je suis un fanat de montagne, alors vous savez, vous êtes tombé vraiment sur le bon numéro.
Cyril, on dit raquette, pas raclette, hein, c'est pas pareil.
Non, mais on dit raquette, mais la raclette, c'est pour après les raquettes, en fait.
Voilà, c'est ça. Très bien, bon, on vous embrasse et belle année, merci d'avoir été avec nous.
Mais je vous embrasse aussi, au revoir.
Et c'est la suite des grands débats. On revient sur la situation en Ukraine et au Kazakhstan avec Sarah Daniel. Bonjour Sarah, merci d'être avec nous. Journaliste grand reporter de guerre, spécialiste de l'international au magazine L'Obs.
Oui, alors on va rappeler que le Kazakhstan, là notamment, la situation est un peu explosive. Il y a eu des dizaines, on ne sait pas combien d'ailleurs précisément, en fait, de tués lors de manifestations. Deux mots, même si vous revenez, vous, d'Ukraine, hein, Sarah Daniel, mais vous connaissez en fait toutes ces terres, en fait, de conflits et toutes ces anciennes républiques. Ce qui se passe en fait au Kazakhstan, l'origine en quelque sorte, c'est sur l'énergie, sur le carburant en tant que tel, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est les prix du carburant qui ont augmenté, mais finalement il y a eu des révoltes et puis très vite c'est passé à autre chose, c'est passé à une révolte plus générale contre le pouvoir en place et contre ces pouvoirs qui finalement sont des émanations du pouvoir mis en place par l'Union soviétique.
Voilà, c'est une forme de rébellion, quoi, en quelque sorte, quoi.
Voilà, c'est une forme de rébellion et un petit peu le désir de la population de lever ce joug de la Russie qui est très très lourd et qui entraîne pas le pays dans le bon endroit.
Parce qu'en fait,
les Russes veulent plutôt maintenir sous le boisseau ces républiques parce que d'abord ça leur fournit de la
matières premières, effectivement, oui, des surtout, richesses. Quoi. Le Kazakhstan est très riche.
Et surtout de l'emploi à bon marché.
Ah oui,
et puis,
c'est vrai aussi.
Et puis voilà. Et puis et ça leur permet d'exporter évidemment leurs biens. Donc ils ont à la fois ils les soutiennent, mais ils les soutiennent pas trop fort. Donc c'est ça le paradoxe.
Les
en
Russes,
fait.
Oui. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, mais là, il y a eu une demande justement au secours, un appel un peu au secours, quoi, du pouvoir kazakh à Poutine, quoi. Hein,
ah,
je
bien
crois.
Sûr, parce que le pouvoir a besoin d'être conforté. Là, il sent qu'il est vraiment menacé. Comme vous dites, il y a eu apparemment des dizaines de morts.
C'est incroyable, c'est qu'on a du mal à savoir parce que tout Internet a été coupé. Oui.
Absolument. Toutes ces régions, à part le Kyrgyzstan, en fait, sont des autocraties, enfin des pouvoirs autoritaires. Et donc, ils s'alignent un peu sur les méthodes de Poutine. Et ils ferment Internet, ils ferment les messageries. Oui, ils ont un contrôle très important de ça.
Alors, un petit peu plus loin, il y a aussi l'Ukraine, enfin plus loin ou plus près de nous, de l'Europe, d'où vous revenez.
Entre la Russie et l'Europe.
Oui, et là aussi, c'est extrêmement compliqué. Grosso modo, ce que l'on peut dire, c'est que l'Ukraine, bah, elle regarde l'Union européenne parce qu'elle voudrait rentrer, entre guillemets, et notamment, alors là, c'est autre chose, mais dans les forces de l'OTAN. Hein, voilà. Et Poutine dit niet, pas question, évidemment, parce qu'aux portes de Moscou, il ne veut pas que les Américains prennent aussi un petit peu position. C'est un peu ça l'objet. Finalement du bras de fer actuellement.
Bah oui, mais ça fait un moment depuis les révoltes de Maïdan en 2014. Si vous voulez, l'Ukraine elle est séparée en deux. Il y a d'un côté l'Ouest qui est complètement tourné vers l'Europe, comme vous dites. Et d'ailleurs, on le voit très bien à Kiev, qui est une ville. Enfin, en tout cas, assez occidentalisé. Et puis après, il y a l'ouest du pays, l'est du pays, le Donbass. Et là, il y a beaucoup de russophones et il y a des gens qui sont plus tentés de rester dans cette espèce de zone d'influence russe.
Russe, oui. Qu'est-ce
mais
que vous avez
Depuis le début du siècle, on a l'impression qu'ils sont malmenés, que c'est vraiment le pays objet, que tout le monde et tout le monde se déchire autour de ce pays et sans que eux, visiblement, ne puissent prendre le pouvoir ou en tout cas
pas
assez longtemps.
En fait, ils sont très nationalistes et donc depuis même depuis la Russie. Des tsars, ils ont voulu avoir une Ukraine indépendante. Ça, l'occasion leur en a été donnée quand l'Union soviétique s'est démantelée. Mmh. Et puis voilà, et maintenant il y a un tiraillement parce que pour Poutine considère l'Ukraine vraiment comme russe et comme son arrière-cour. Et surtout, son cauchemar absolu, en effet, c'est que l'Ukraine rejoigne l'OTAN.
Oui. C'est ça. Et d'ailleurs, il va y avoir. C'est le jeu aussi d'un marchandage, en quelque sorte, d'un bras de fer avec Joe Biden. Il va y avoir une rencontre la semaine prochaine,
Absolument.
Sans l'Europe, quoi.
Sauf que Joe Biden a déjà déclaré qu'il n'enverrait pas de troupes pour sauver Kiev.
Oui.
Donc, si vous voulez, c'est vrai que pour l'instant, Poutine est un peu en position de force.
Il est en position de force. Alors, vous avez passé, vous, le nouvel an à la frontière russe, hein, c'est ça, avec l'armée, à la frontière ukraino-russe.
Séparatiste russe, pro-russe,
ouais. Oui, c'est ça. Mais vous étiez avec qui, alors?
Donc, j'étais avec les soldats ukrainiens.
Oui.
Et au moment quelques heures avant, enfin quelques minutes avant minuit, on a appris la mort d'un soldat ukrainien. Donc c'est pour dire que le front est encore très très volatile. C'est pas du tout, enfin c'est une guerre froide, bien sûr gelée, mais il y a encore beaucoup de morts chaque semaine en fait, ou de blessés. Et voilà, et donc il y a des rixes de part et d'autre de la frontière qui ne demandent qu'à se remobiliser. Donc
les troupes, les soldats, ils savent pourquoi ils se battent? Parce que souvent, c'est la question qu'on se pose quand il y a un conflit. Est-ce que vraiment on est convaincu, quand on est militaire engagé, en fait, de la bonne cause pour laquelle en fait, on se bat, ou en tout cas on contrôle les frontières?
Bah, les soldats, oui, parce que là, ils veulent rejoindre l'OTAN, ils veulent rejoindre la communauté européenne, ils sont ils détestent Poutine, enfin ceux avec qui j'étais là.
C'est-à-dire que l'Ukraine est divisée, quoi. Complètement divisée, en fait, alors, non?
Oui, alors après, je ne sais pas quel est exactement le pourcentage.
Non, oui.
Mais c'est peut-être que ces deux républiques séparatistes, ils sont peut-être quand même plus pro-européens que... Mais en tout cas, les soldats, eux, ne sont pas, n'ont pas d'état d'âme, si vous voulez, comme on voit en effet souvent dans les conflits.
Ah oui, c'est vrai. Votre reportage qui est paru, là, dans...
Oui, il est paru jeudi, oui.
Jeudi, dans l'Obs, hein.
Ouais,
voilà,
c'est ça.
Est-ce que le problème de la Crimée, finalement, est résolu?
Non, il n'est pas résolu parce que...
Puisque en fait, Poutine dit que c'est résolu.
C'est résolu de fait parce que c'est annexé. Donc si vous voulez, là c'est un peu plus... Mais en fait, ce qui fait que ça n'est pas résolu, c'est que ça donne un peu le « là » pour d'autres conflits en puissance qui pourraient se développer. Et voilà, et peut-être qu'il y aura d'autres futurs Crimées. On peut envisager le cas, notamment au Kazakhstan, hein. puisque là, des troupes russes ont été envoyées et que Poutine peut toujours se faire fort. C'est toujours sa méthode. Il envoie des passeports aux gens. Par exemple, là, dans le Donbass, il a envoyé 600 000 passeports russes. Donc après, il peut tout à fait dire « je viens pour protéger les Russes qui sont là ».
C'est ça.
C'est une manière d'annexer...
D'annexer, oui, sur le terrain.
Exactement.
Ouais, et Poutine, qui se sent, ce que vous disiez, hein, fort, effectivement, Il est fort.
Il est fort depuis aussi le retrait américain. Ouais. Depuis que les Américains sont partis d'Afghanistan, depuis qu'ils n'ont pas réagi aux lignes rouges qu'ils avaient eux-mêmes fixées en Syrie.
En Syrie.
Quelque part, ils ont déjà déclaré... que voilà, toute cette zone-là pouvait être le terrain de jeu des Russes et des Chinois.
Et donc ça, il le sent, quoi. Il le sent. Voilà. Alors, il se tourne aussi vers la Chine, quoi.
Mais le Kazakhstan, Poutine, notamment, a beaucoup de relations avec la Chine. La Chine les aide beaucoup à se développer. Et donc, justement, là, en fait, la population voulait desserrer un peu cet étau russo-chinois. Et ils se sont tournés vers la Turquie, qui est aussi maintenant un État qui intervient énormément dans la région.
Et sur l'Europe, quel est son regard à Poutine? Est-ce que finalement l'Europe compte ou pas plus que ça, quoi?
Vous voyez, comme dans les négociations avec l'Ukraine, il l'a complètement méprisé. Il a demandé qu'on la sorte du jeu. C'est parce que je pense que justement, il a un peu de mépris pour cette Europe qui est tellement divisée et aussi qui n'aime pas beaucoup.
Il n'aime pas l'Europe de Bruxelles en quelque sorte, quoi. Si c'est.
Puis non, mais il la trouve faible. Enfin, Poutine, il considère les forces en présence. Il veut parler avec le chef, quoi. Il veut parler avec celui qui a du répondant.
D'égal.
Allez, on va continuer avec vous, Sarah Daniel, dans un instant. Grand reporter. Vous êtes grand reporter de guerre. Vous allez nous parler justement aussi dans un instant de ce métier, quelques minutes, parce que vous continuez d'aller toujours. Au cœur des conflits. Vous êtes allé, vous étiez en Afghanistan il n'y a pas si longtemps aussi.
Oui, en septembre, quand les talibans ont repris le...
Ouais, on va en reparler dans un instant.
Et si vous avez des questions, bien entendu, pour Sarah Daniel, 0826-300-300, vous accueille en stand Arras tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h33 et derrière l'actualité, souvent, il y a forcément des journalistes et des grands reporters de guerre. Sarah Daniel est avec nous, spécialiste de l'international au magazine L'Obs.
Oui, vous revenez, vous nous avez raconté d'Ukraine, vous étiez aussi en Afghanistan, vous allez en fait sur tous les terrains du monde. Et Cécile, forcément, il y a plusieurs questions en fait à poser.
Oui.
Et une... basique. Hein,
c'est la sécurité, parce que forcément, quand on est une femme dans des pays, beaucoup d'hommes, ça c'est la première des choses. Et la sécurité, qui fait attention à vous? Quand vous parlez, est-ce que le ministère des Affaires étrangères vous suit? Ou est-ce que vous allez seul avec votre baluchon, entre guillemets?
Oui, je vais seule avec mon baluchon et puis une équipe, hein, parce que là j'étais avec le photographe Guillaume Binet, en Afghanistan j'étais avec Jérôme Cessini, mais enfin voilà, on est une équipe et puis après on a souvent un chauffeur et un traducteur et ça fait une petite équipe à quatre.
Mais vous êtes livrée à vous-même?
Ah oui, parce qu'autrement, c'est aussi la condition de la liberté du travail. Parce qu'en effet, on voit sur le terrain, notamment les équipes de télé américaines qui sont avec des mercenaires, des gardes du corps. Quand on arrive dans un village et qu'on est entouré
de... Ça limite la liberté.
C'est pas exactement
la liberté de parole.
Oui, le même rapport à la population, aux gens qu'on interviewe.
Et quel rapport ils ont avec la presse, justement, européenne, française? Enfin, je ne sais pas si... S'il y a une image justement de...
Ça dépend du conflit en cours. Par exemple, en Afghanistan, les talibans avaient reçu des consignes, notamment du Qatar et d'Al Jazeera, de ne pas être trop désagréable avec les journalistes. Et c'est vrai qu'on l'a ressenti. Après, en Ukraine, si on est français, on est assez bien perçu. En tout cas, du côté pro-européen et ukrainien. Voilà, donc à chaque conflit, souvent, on essaye de mettre en avant une nationalité qu'il y a dans un groupe de journalistes.
Oui, mais est-ce que vous avez conscience, est-ce que vous ressentez aussi le danger quand vous êtes dans ces territoires de guerre?
Oui, bien sûr, ça.
Ouais.
Mais
vous y pensez en permanence ou alors vous êtes dedans, donc vous l'oubliez?
On est dedans, on oublie, on s'intéresse à la question. Bon, après, oui, bien sûr, j'ai été bombardée, survolée par des drones. Il m'est arrivé beaucoup de choses. Donc, bien sûr, à ce moment-là, le danger se rappelle à vous.
Ouais.
Mais puis parfois, on n'a pas conscience du danger quand il est le plus grand. Enfin, c'est très... Voilà, on est occupé par autre chose, en fait, ouais. Heureusement.
Question, il est resté à l'écoute et avec nous de Philippe Bilger, hein, qui est toujours avec nous. Philippe, vous vouliez poser une question à Sarah Daniel.
Oui, parce que je suis très heureux d'entendre Sarah Daniel, que je lis. Je complète votre interrogation, Patrick. Reporter de guerre, reporter, ça peut renvoyer à une conception traditionnelle du journalisme, et de guerre, c'est autre chose. Est-ce qu'il y a dans votre passion pour cette belle mission quelque chose qui relèverait d'un goût du risque, à titre personnel ou pas du tout ?
Reporter de guerre, c'est, moi je ne revendique pas cette appellation. Moi je suis grand reporter et j'aime autant faire des choses qui concernent des situations de danger. Bon, maintenant, si je dois vraiment être honnête, évidemment, je pense que il y a un peu de, ça m'amuse aussi, quoi. C'est pas, en tout cas, il y a de l'adrénaline, et puis ça me déplaît pas. Mais moi, plus que ça, ce qui me plaît, c'est d'être vraiment au cœur de l'histoire. C'est de voir vraiment les événements se faire, alors que ça soit...
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, justement, au cœur de l'histoire, dans les nombreux reportages de guerre depuis des années que vous menez ? Et d'ailleurs, votre père, à titre posthume, vous rend hommage dans son livre. Il le dit, moi, je ne suis pas un reporter de guerre, j'aime bien, effectivement, m'occuper des négociations, discussions, etc. Lui qui a tout connu, hein, mais il dit, contrairement donc à ma fille, Sarah Danielle, qui, elle, aime aller au contact, hein, sur le terrain, beaucoup plus, quoi.
Oui, il dit ça, et en même temps, il a été blessé, quand même.
Oui, bien sûr, c'est vrai, en Algérie...
En Tunisie.
Bien sûr, il est allé en Égypte.
Qu'est-ce qui m'a le plus intéressé ? L'Irak m'a vraiment passionné parce que j'ai consacré beaucoup de temps, que j'y ai été très longtemps et que j'ai vraiment vu tous les. J'ai pu m'approcher très très près de tous les acteurs du conflit, ça c'est toujours passionnant. L'Afghanistan, c'était passionnant. Les révoltes arabes aussi. On est dans un. C'est, quand on aime l'histoire et l'aventure, c'est un métier qui est tellement passionnant.
Ouais.
Et ça continue.
Ces pays musulmans, vous êtes une femme, hein, dans ces pays musulmans, forcément, il y a des endroits dans lesquels vous ne pouvez pas aller.
Comment Au contraire, parce qu'en fait, comme on est voilé, ça nous permet... Moi, je me souviens, à un moment, il y avait une révolte à Najaf. Aucun de mes confrères ne pouvait y aller. Et moi, j'avais une abaya complète et justement, j'ai pu y aller. Non, en fait, ça vous donne une grande liberté...
À propos de l'Afghanistan où vous êtes allé en fait en septembre, on en parle beaucoup moins en fait aujourd'hui de l'Afghanistan. On a l'impression que le couvercle s'est un peu refermé sur ce pays. Est-ce que vous avez toujours des contacts et est-ce que vous savez ce qui s'y passe, quoi ?
Oui, bien sûr, j'ai des contacts. Et ce qui s'y passe, c'est ce qu'on avait prévu contre certaines personnes qui nous annonçaient que le Taliban nouveau était arrivé. Mais en fait, ils ont exactement les mêmes idées, les mêmes codes, les mêmes volontés. Et c'est, pour les femmes, c'est absolument épouvantable. Elles n'ont plus droit à l'éducation, elles ne peuvent plus être juges, elles ne peuvent plus présenter les nouvelles. Enfin, elles sont recantonnées à nouveau à la maison. Et puis, il y a aussi des exactions...
Les femmes d'un côté et puis les hommes de l'autre côté, il y avait une chasse terrible, quoi.
Il y a toujours une chasse aux anciens collaborateurs des Américains, où il y a des fouilles porte à porte, les gens ne sont pas sortis d'affaires. Et c'est vrai, c'est bien que vous disiez ça, parce qu'on oublie un peu, il y a eu cet emballement qui était merveilleux, les gens s'intéressaient à ce qui s'est passé, et maintenant c'est devenu vraiment c'est passé sous le radar, quoi. C'est dommage parce que ça reste toujours aussi déchirant qu'avant.
Et c'est notre rôle, hein, en France peut-être, d'aider toutes ces femmes afghanes aujourd'hui.
Oui, en tout cas de ne pas les oublier, de les soutenir et de rappeler leur sort, ça absolument. Ouais.
Et puis, en même temps, ce qui se passe sous le couvercle, en fait, c'est intéressant parce que, évidemment, c'est peut-être là que se préparent des conflits de demain, des attentats, etc. Donc,
bien sûr, parce qu'on laisse, en effet, que ce soit Al-Qaïda, des groupes Haqqani, ou peut-être et aussi dans ces zones de non-droit, on sait très bien que c'est là que tous les terrorismes...
Sont en train de reprendre de la vigueur, quoi, probablement. Quoi,
oui.
Hein, oui. Et d'ailleurs, on parlait de Poutine tout à l'heure, hein, juste avant en fait, la pause. Quoi. Poutine et l'Afghanistan, il le sait aussi que c'est toujours en fait, un danger, une poudrière, lui. Est-ce qu'il s'en préoccupe ou pas ?
Bien sûr, il s'en préoccupe, d'autant plus que ça peut avoir des porosités avec ses propres fondamentalistes, que ce soit en Tchétchénie ou au Daghestan. Et donc, il est très attentif. Et puis surtout, il est attentif. Il y a une compétition dans ces pays entre la Russie et la Chine. Mmh. Et c'est ce qu'on voit aussi dans toutes ces républiques du Caucase central, d'Asie centrale. C'est ce bras de fer avec la Chine qui est très, très important.
Merci Sarah Daniel, journaliste grand reporter et spécialiste de l'international au magazine L'Obs. Et donc, je vous invite à lire notamment ce papier, ce reportage que vous avez préparé. Vous avez passé le nouvel an à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Vous pouvez le lire dans c'est le numéro de cette semaine de L'Obs. Merci d'être venu et de nous avoir
de aussi. Relire ce livre magnifique.
Alors oui, de Jean Daniel par ailleurs, votre père. Donc c'est quasiment un siècle d'histoire raconté par Jean Daniel et qui est très attaché dans ce livre et qui devrait être lu par tous les gens qui se présentent à la présidentielle autour de la nation, la nation et puis la France dans l'Europe, etc. et l'ensemble des relations. Merci d'être venu ce matin au micro Sud Radio. Dans un instant, Cécile.
C'est le monde de la fête qui est totalement à l'arrêt, en tout cas pour une grande partie. On va en parler avec des acteurs, des discothèques surtout, et puis du monde des salles de concert et vos appels 0826 300 300, voilà, si vous voulez témoigner. À tout de suite.